Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 7 juin 1520, l'entrevue du camp du Drap d'Or. Le 12 janvier 1519, l'empereur Maximilien décède. Il n'a pas réussi à imposer l'élection de son successeur de son vivant. Les électeurs du Saint-Empire romain germanique, à savoir les trois princes archevêques allemands, le roi de Bohême, le duc de Saxe et le comte palatin, ne se sont pas laissés convaincre. Pour le jeune roi de France, François Ier, l'élection impériale devient alors plus importante que la croisade contre les Ottomans, dont il envisage de prendre la tête. En effet, le titre impérial confère une autorité morale et politique considérable. De plus, à cet honneur s'ajoute pour François Ier la garantie de l'indépendance du duché de Milan qu'il vient de reconquérir et relève du Saint-Empire. François Ier, Charles Ier d'Espagne, Frédéric de Saxe, Henri VIII d'Angleterre sont candidats à la fonction impériale. Les deux derniers se retirent rapidement. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, sait bien que la position géographique de son pays lui enlève tout espoir. Quant à l'électeur de Saxe, son accession à la pourpre impériale est suspendue au soutien français. François Ier, roi de France depuis 1515, mène campagne. Il répand à travers l'Allemagne un manifeste qui vante ses mérites à la troisième personne. Il est jeune et à la fleur de l'âge, libéral, magnanime, expérimenté et habile à la guerre. Un gros royaume où il est aimé et obéi tellement qu'il en tire ce qu'il veut. Des ports et havres tant sur la Méditerranée que sur l'océan, avec navires équipés et armés, il a bonne paix avec tous ses voisins, en sorte qu'il pourra employer au service de Dieu et de la foi sa personne et tout son avoir sans que nul ne le détourne et que rien l'empêche. Charles Ier d'Espagne riposte sur le même ton. Il prédit aux Allemands que François Ier les maintiendra en étroite sujétion et les couvrira d'impôts, alors que lui, plus lointain par la géographie, les laissera libres. À tout majeur, il met principalement en valeur son appartenance à la maison des Habsbourg, donc à une famille germanique. Bien vite, les trafics d'influence et les marchandages sont portés au plus haut point et les enchères grimpent. Les électeurs germaniques vantent et revendent leur voix au plus offrant. À ce jeu, c'est Charles Ier d'Espagne qui est élu empereur. Il prend le nom de Charles Quint. François Ier est touché par cette défaite électorale. Il se console à la chasse en courant le cerf dans la forêt de Fontainebleau. Très vite, il se ressaisit. Il souhaite faire contrepoids à la puissance germano-espagnole qui désormais déséquilibre nettement l'Europe occidentale. Aussi envisage-t-il une alliance avec l'Angleterre. L'idée d'une rencontre avec le roi Henri VIII s'impose donc. L'entrevue, une véritable surenchère d'ostentation, a lieu en Artois le 7 juin 1520, jour de la fête Dieu, à la frontière des royaumes de France et d'Angleterre, entre Ardes et Guînes, non loin de Calais, qui est alors territoire anglais. Les deux souverains cherchent à s'éblouir réciproquement. Tandis que les tailleurs réalisent des costumes en n'épargnant ni l'or ni les pierreries, les pionniers nivellent le sol, établissent des routes et élèvent des tentes d'étoffes d'or et coiffées de banderoles et d'étendards armoriés. Cependant, l'empereur Charles Quint accourt auprès d'Henri VIII pour tenter d'empêcher la rencontre, mais il n'obtient que la promesse de le rencontrer après l'entrevue avec le roi de France. Le 31 mai 1520, Henri VIII monte à bord du plus imposant vaisseau de sa flotte, l'Henri Grâce de Dieu, qui jauge 1000 tonneaux et est armé de 22 canons. Ces deux hauts châteaux, celui de Proue et celui de la Poupe, s'élèvent au-dessus de la mer comme des immeubles de plusieurs étages. Les voiles sont de drap d'or et en haut, des mâts flottent de longs oriflammes. Tandis que ce monument flottant arrive à Calais, François Ier couche à Ardres. Il a fait ériger une vaste maison de ville pour festoyer avec son homologue anglais. Non loin du petit bourg, François Ier élève plusieurs centaines de tentes et pavillons de drap d'or pour son usage personnel. Il aménage 4 pavillons dont il se réserve le principal surmonté d'une statue de Saint-Michel, archange foulant au pied le dragon. Henri VIII dresse en dehors du château de Guînes des tentes d'or et une maison en bois et en verre. 5572 personnes et 2865 chevaux débarquent avec lui à Calais. La rencontre entre les deux souverains a lieu le jeudi 7 juin 1520 entre les villages d'Ardres et de Guînes, mais en territoire anglais, exactement à Val-d'Oré. François Ier quitte Ardres précédé de ses Suisses, d'un véritable régiment de fifres, de tambours et de trompettes. Il est accompagné du connétable de Bourbon qui porte ostensiblement l'épée nue. Henri VIII est entouré de 400 archers, il est vêtu d'argent et de pourpre. Maintenant, les deux rois sont face à face. François Ier de haute taille, à 25 ans, Henri VIII, 29. Le regard du roi de France brille de ruse et d'astuce. La bouche gourmande et sensuelle sourit ironiquement. Henri VIII est puissant, athlétique, trapu et raffiné. Deux hommes seulement assistent à l'entrevue, l'amiral de Bonnivet et le cardinal Thomas Wolsey. Le connétable de Bourbon fait la grimace, il demeure à la porte et n'oubliera jamais le camouflet. Les deux souverains s'embrassent et Henri VIII débute la lecture du traité d'amitié liant les deux royaumes. Le dimanche suivant, un double banquet est donné. François Ier dîne chez la reine d'Angleterre. Henri VIII partage le repas de la reine Claude de France et de Louise de Savoie, la mère de François Ier. Le matin du 9 juin 1520, François Ier rend visite incognito à Henri VIII au château de Guînes et pénètre dans sa chambre pour le réveiller. Le lendemain, le roi d'Angleterre rend l'appareil au roi de France. Le 11 juin, les joutes commencent. Les deux rois luttent ensemble. Le tournoi dure jusqu'au 19 juin et le jeu d'arc où brillent les archers anglais lui succède. Henri VIII remporte ici la première place. Le 24 juin, François Ier et Henri VIII se séparent. Quel est le bilan de l'épisode du camp du Drap d'Or ? Un vague accord où il est surtout question des paiements que François Ier s'est engagé à faire à Henri VIII. Et c'est avec bien de la peine que François Ier apprend qu'en rentrant chez lui, le roi d'Angleterre rencontre l'empereur Charles Quint à Gravelines. L'entrevue anglo-allemande est d'ailleurs placée sous le signe de la simplicité et de la cordialité. Un traité secret et infiniment plus sérieux que le précédent est ensuite signé entre la France et l'Angleterre. Les deux souverains promettent de se revoir et de parler ensemble de leurs intérêts conjoints. Mais les relations franco-anglaises ne tardent pas à se dégrader. En effet, en mars 1521, François Ier engage les hostilités contre Charles Quint. Tournai est vite repris par les troupes impériales. Les Français occupent Mézières. En Italie, Ludovic Sforza en profite pour s'emparer des cités de Milan, Plaisance et Parme. Une conférence franco-allemande s'ouvre à Calais le 4 août 1521 sous la présidence du cardinal Wolsey. Mais en dépit de nombreuses harangues prononcées en latin et de la médiation anglaise, les choses ne s'arrangent nullement. Le fossé entre François Ier et Charles Quint se creuse davantage. Quelques mois plus tard, le 29 mai 1522, un héros d'armes du roi Henri VIII rejoint François Ier à Lyon pour lui déclarer la guerre au nom de son maître devenu, avec le pape Léon X, l'allié de Charles Quint. La coalition est désormais formée contre la France. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama et écouter les chœurs de l'Opéra de Vienne qui interprète « Douce nuit, sainte nuit ».
Thank you.
Vous écoutez Historama, la chronique littéraire, un jour trois livres, deux livres seulement aujourd'hui, mais en deux volumes chacun. Ce sont deux très belles publications de la Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard. Pour commencer, Michelet en deux volumes. La Bibliothèque de la Pléiade propose l'histoire de la Révolution française, le chef-d'œuvre de l'historien Jules Michelet, écrite entre 1847 et 1853. En 21 livres répartis en 7 tomes, il restitue les grands événements qui marquent cette séquence essentielle de l'histoire de France, de la convocation des États généraux à l'exécution de Maximilien Robespierre et le début de la réaction thermidorienne. Michelet consacre également un remarquable avant-propos à la religion au Moyen-Âge et à une description de l'ancienne monarchie. Cette édition est publiée sous la direction de Paul Petitier, professeur à l'Université Paris Diderot, qui s'est entouré d'une dizaine de collaborateurs pour rédiger le passionnant appareil critique qui l'accompagne. C'est à lire de toute urgence, Michelet. Donc, l'histoire de la Révolution française dans la Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard. Et Romain Gary, toujours dans cette même splendide Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard, qui publie en deux volumes encore l'œuvre littéraire de Romain Gary. Au fil des pages, il est possible de retrouver ses ouvrages de référence comme « Les racines du ciel » ou « La promesse de l'aube ». Dans cette édition figurent également trois livres signés sous le pseudonyme d'Émile Ajar, « Gros câlin »,« La vie devant soi » et « Pseudo ». Elle est dirigée par Mireille Sacotte, professeure émérite de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. C'est une merveilleuse idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. Romain Gary dans la Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard. Ainsi se referme cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée et nous nous séparons en chanson avec les chœurs de l'Opéra de Vienne qui interprètent « Mon beau sapin ».